Là-haut, deuxième partie, chapitre 5. L'incendie de Valanche souleva un grand élan de charité dans les stations voisines et dans tout le bassin de l'Léman, en sorte que le sinistre devint presque une bonne affaire. Les imprévoyants surtout, ceux qui n'avaient jamais collé sur leur porte la marque d'aucune compagnie d'assurance, furent largement récompensés de leurs pertes. Chalets détruits, chèvres grillées, récoltes perdues. L'incendie transforma les bêtes, les meubles, les murailles en bel argent comptant. Et cet argent, tombé du ciel, tous en virent aussitôt l'emploi, comme si un signe manifeste de la Providence les eût éclairés. Il fallait reconstruire, plus beau, plus grand, selon les idées nouvelles, selon les nouveaux besoins. Élever sur les ruines des vieilles masures un vrai village moderne, en pierre, dont les plus modestes logis seraient organisés pour recevoir des étrangers. Aussi les voyait-on sans cesse, tantôt l'un tantôt l'autre, en conférence avec Tartinelli, l'entrepreneur tessinois, dont on rencontrait partout la grosse tête rougeaude et les oreilles cerclées d'or. Ancien maçon, Tartinelli n'avait point sur l'architecture des idées compliquées, mais il savait tirer bon parti des terrains, présentait des devis économiques, construisait, sur des plans à peu près uniformes, des maisons solides, massives, plantées dans le sol comme pour l'éternité, avec un toit d'ardoise, des volets verts et la galerie ajourée, dernier vestige de l'ancienne architecture en bois. Aussi, les propriétaires épargnés par le feu séchaient-ils d'envie. Vieil Suisse lui-même, après s'être encore un peu défendu, entra dans le mouvement, préoccupé surtout de devancer à Rognes, dont les constructions ne commençaient pas encore. Il se mit à l'ouvrage avec Gaspard, aidant de ses propres mains à démolir le vieux chalet, tout heureux que Tartinelli eût consenti à en utiliser les planches. La fin de la saison dispersa les étrangers. Peu de jours après la bénédiction des troupeaux, Sterny partit, chassé par l'angoisse de son secret découvert, après de courts adieux à ses amis d'un été, qu'il pensait ne revoir jamais. Les vallées restèrent jusqu'à la fin d'août. À la mi-septembre, quand les vaches quittèrent les hauts pâturages et vinrent prendre leur quartier d'automne au Mayen de Belle, les deux hôtels étaient presque vides. Alors, des bandes d'ouvriers italiens s'abattirent sur le village, et tout de suite, on put prévoir que l'hiver ne se passerait point comme d'habitude. Sa somnolente demi-paresse, secouée de temps en temps par la nécessité de la coupe du bois qu'il faut schlitter sur la neige. Il fut d'ailleurs d'une extrême douceur, arrêtant à peine les travaux pendant quelques jours de chômage. Et cette colonie d'ouvriers étrangers, au teint brun, aux yeux luisants, sobres, irritables, vindicatifs, vivant entre eux sans se mêler aux gens du pays, entretint dans le village un persistant malaise. L'on ne s'y sentait plus en sûreté. Les femmes et les filles n'osaient pas sortir seules le soir. C'était comme un danger, toujours présent, comme une maladie qu'on a dans le corps, et qui, même quand elle ne vous tiraille pas les nerfs ou les muscles, vous empêche d'être tranquille. Maintenant, ça sera comme ça pendant des années, répétait Nantelme à ceux qui se plaignaient. C'est votre faute. Vous voulez des hôtels? Vous voulez des maisons de pierre? Il faut bien des maçons pour vous les bâtir. Le brave garçon les observait avec une patience de garde champêtre, ces maçons de malheur, et tenait le compte de leurs méfaits. Une fois, c'était des poules disparues du poulailler de Maurice Combes. Une autre, des vitres cassées chez Alexis Poncher. Une autre encore, c'était Friskine Jordan, une jolie fille avec un petit nez d'oiseau, des yeux pétillants comme le vin nouveau, un teint tout blanc de demoiselle et des cheveux blonds comme la lumière, que deux mauvais garçons poursuivaient et qui ne leur échappaient qu'à force de courir vite. Elle en restait tout agitée, la pauvre, et comme elle vivait seule dans son chalet avec ses deux petits frères, étant orpheline, sa peur fournit un bon prétexte à ses « veilleurs » de venir plus assidûment et de prolonger leur veillée pour la mieux garder. De plus, il y avait presque chaque soir des bagarres, et l'on n'était jamais sûr de ne pas voir sortir des couteaux. Nantelme ne parlait de rien moins que de faire monter un gendarme en permanence. Mais un beau jour, il se calma subitement et ne souffla plus mot. La veille, par un temps de gel qui arrêtait les travaux et poussait dans les pintes les ouvriers désemparés, les gens de la crête aux Jeurs, un hameau perdu sur les flancs de la Matz de l'autre côté de la Tause, était venu enterrer un des leurs. Car il faut que les morts de tout le pays reposent en terre bénite autour de la vieille église, et quand c'est l'hiver, les amis les apportent là, quelque impraticables que soient les sentiers enfouis sous la neige, défoncés par les pluies ou couverts de glace et glissant comme du verre. Les parents s'en retournèrent presque aussitôt après la cérémonie. Mais un voisin, resté jusqu'au soir pour régler une affaire avec le président, but un verre de trop et se prit de querelle, sur la place, avec un groupe de maçons, si bien qu'il y eut une bataille assez chaude. Malgré les conseils d'amis qui offraient de l'héberger pour la nuit, il voulut absolument repartir, vers les 10 heures, avec une lanterne. Et l'on retrouva son corps au bord de la Tause, là où l'étroit sentier de la crête aux Jeurs passe au-dessus d'une paroi de 100 mètres à pic. L'accident n'avait rien d'extraordinaire. On n'en jugea pas moins qu'il coïncidait de façon singulière avec la querelle sur la place. Une enquête ouverte par la justice de Martigny n'aboutit pas. Néanmoins, Nantelme jugea plus prudent de garder désormais pour soi ses réflexions sur les ouvriers de Tartinelli. Et une peur sourde régna dans le village. La crainte vague des coups de traître, des longs couteaux, des rancunes et des vengeances de ces espèces d'ennemis, avec lesquels il fallait pourtant bien s'arranger, puisqu'on aurait besoin d'eux pendant des années. Au printemps, surgirent encore des complications nouvelles. On vit arriver 3 ingénieurs, qui venaient étudier sur place un projet de chemin de fer. Car la question du chemin de fer, qui jusqu'alors semblait une chimère impossible, se précisa tout à coup. Une société de financiers zurichois en prit décidément l'initiative, et l'on ne douta pas que la concession serait accordée. Le moment approchait donc où les plus ambitieuses pensées des Valanchets les plus entreprenants allaient se réaliser, à la confusion des arriérés et des rétrogrades. Les 3 ingénieurs s'installèrent au Chamois, dont ils louèrent les meilleures chambres, et commencèrent leur besogne. Il s'agissait d'abord d'étudier le tracé. Ce fut l'affaire des 2 plus jeunes, Lindemann et Vergus, 2 petits blonds, imberbes, portant lunettes, frais et moulus du Polytechnicum de Zurich, d'ailleurs laborieux, actifs, parlant français avec l'accent de leur canton. Ils partaient de grand matin, suivaient des chemins de casse-cou, plantaient partout des piquets surmontés de petits drapeaux rouges qui n'avaient rien de révolutionnaire. La curiosité publique, parfois aussi la malveillance, car si la majorité des habitants de Valanche considéraient la construction du chemin de fer comme un coup magnifique de la fortune, le projet avait aussi ses adversaires. Les encroutés, comme Nantelme. Les femmes, dont l'esprit positif et borné redoute tous les changements. Et puis, les habitants des hameaux clairsemés par la vallée, ceux de toutes les crêtes et de tous les leurs, de tous les paquets de maseaux, juchés en dehors de la route et d'accès difficile. Ceux-ci, en effet, n'avaient rien à espérer du chemin de fer, sinon d'en voir passer la fumée au haut de leurs champs arides. Et ils protestaient, ils luttaient. Oh, timidement, en petits gens, dont la voix ne compte guère, en gens rageurs qui n'osent pas dire franchement ce qu'ils pensent, et recourent pour se défendre à des moyens cachés. Plus d'une fois, Lindemann et Vergus trouvèrent leur piquet arraché. S'ils se plaignaient, on leur répondait « Il a fait grand vent cette nuit !» Rien de plus, car là-haut, on se tient les uns les autres. Ceux-là même que dérangeaient ces petites chicanes, d'ailleurs inutiles, n'en auraient jamais révélé les auteurs. Il fallait donc se résigner, replanter d'autres piquets. Une fois pourtant, Lindemann se fâcha pour de bon. Un matin, non content d'arracher les piquets, on les avait déplacés, au risque de compromettre tout le travail. Mais personne ne comprit la grande colère du petit ingénieur, qui, rouge comme une crête de coq, pérora longtemps devant le président Combes, impassible comme la justice. À côté de la besogne technique que poursuivaient Lindemann et Vergus, il y en avait une autre bien plus délicate, qui incombait au gros flamand. Un véritable Allemand, celui-là, un Wurtembergeois pansu, à l'épais visage rouge, encadré d'une chevelure en broussaille qui grisonnait et d'une barbe encore blonde qui coulait comme un fleuve, d'aspect tout franc, tout rond, engageant, familier, bon vivant, bon garçon. Sa tâche consistait à gagner la contrée au projet, car la compagnie aurait à compter avec les communes, qui pouvaient l'aider par des prestations utiles, mais dont l'appui n'était rien moins que certain. Or, des deux principales communes qu'intéressait le projet, Vionnet et Valenches, la première seule était bien résolue. Pour ce grand village, perché au sommet de la vallée dans une position magnifique, qui comptait déjà 6 hôtels dont les fenêtres ouvraient sur le glacier prochain, le chemin de fer ne pouvait être qu'une excellente affaire. Il y amènerait certainement un nombre croissant d'étrangers, friands du beau paysage qui se développait sous leurs yeux, sans qu'ils eussent à se fatiguer les jambes pour le découvrir. Mais autre était le cas de Valenches, formé d'une agglomération de petits endroits, et dont le territoire englobe jusqu'à la station de Serviese, où les voituriers organisaient la résistance. Flamand, avec cela, perdait son éloquence. Il ne le contredisait pas, mais leur silence expressif lui donnait grand souci. À Valenches même, tout le monde n'était pas pour lui, et ses adversaires avaient un argument de poids. Le village, disait-il, n'est point un endroit à grand paysage comme Vionnet. Il est un petit endroit intime, qui ne peut attirer que des alpinistes pour les courses, ou des hôtes modestes et tranquilles, comme ceux qu'on voyait revenir depuis des années sur les traces de Madame Sauge. Or, ceux-ci, mis en fuite par le luxe des nouveaux hôtels et le brouhaha des locomotives, qui les remplacerait? En sorte que Valenches ne serait plus qu'un lieu de passage au profit de Vionnet, où s'engouffraient déjà les meilleurs bénéfices de la vallée. Appuyé sur l'antique rivalité des communes, ce raisonnement ne manquait jamais son effet. Aussi, chaque soir on le reprenait, on le développait, on en tirait les conséquences, dans les interminables conversations qui se tenaient sur la poutre, devant l'échoppe du cordonnier. Quelquefois, le cénacle se transportait dans la pinte du chamois, où Flamand offrait des bouteilles de fendant pour travailler à son gré les buveurs. Certains soirs, il croyait les avoir vaincus, car il buvait sans rien dire, sinon que le vin était bon. Mais le lendemain, un mot ou une question lui montrait que c'était à recommencer. Cette opposition silencieuse exaspérait l'ingénieur, qui s'écriait, en arrivant au bout de démonstrations qu'il répétait sans cesse, « Mais est-ce que vous me comprenez, Donnerwetter ?» Pas un muscle de leur visage ne bougeait, et ils faisaient apporter d'autres bouteilles. Il triompha tout de bon, pourtant, le soir où il apparut à la pinte flanquée de Rarogne, qui, monté avec son architecte, ne se fit pas prier pour venir à la rescousse. Prévenus de cette importante visite, les gros bonnets étaient tous là. Les deux Clévoz, le père impénétrable, le fils, guilleré avec des airs glorieux, les deux Cascatés, Nantelme, qui baissait le nez comme s'il eût prévu sa défaite, le président Combes, très digne, Boson, Alexis, le père Jumieux, Maurice Combes, même le borgne Balthazar, qu'on n'invitait pas à cause de son importance, mais seulement pour le cas où l'on aurait besoin du mot pour rire. Et parmi eux, Volant, monté l'après-midi pour passer son dimanche, comme il faisait quelquefois. Ils causaient à voix basse dans leur patois, de la pluie et du beau temps, par crainte de se compromettre. Ils étaient calmes, comme ils le paraissent toujours. Très anxieux pourtant, en réalité, gonflés de passions et de convoitises, mais patients comme leurs mulets qui s'en vont du même pas jusqu'au bout des chemins difficiles. Ils se levèrent tous quand le grand homme entra, les mains tendues, effaçant Flamand qui se faisait petit derrière lui. Bien que ses ancêtres eussent détroussé des voyageurs, régné comme des rois dans leur nid d'aigle, bien qu'ils eussent touché des dîmes, élevé des tailles dans la vallée, commandé dans bien des batailles, manié pendant des siècles les lourdes âmes des gentilshommes, celui-ci était un montagnard comme les autres, trapu comme eux, construit, râblé, musclé à leur manière, avec un col de taureau, court et puissant, des épaules massives, de larges mains velues aux doigts courts. Mais, s'il n'avait ni les membres plus fins, ni les allures plus dégagées, ses petits yeux despotes annonçaient plus de ruse. Ses mâchoires de carnassier semblaient de force à broyer des pierres entre leurs dents de loup. Sa robuste personne, envahissante et satisfaite, s'imposait avec une bonhomie inquiétante d'armes au fourreau. Il en jouait d'ailleurs de cette bonhomie, comme il jouait aussi de son prestige, habile à faire miroiter son auréole de succès, de renommée, d'argent. D'emblée, il se mit à parler de ses constructions qui allaient commencer, de son architecte, de ses affaires, de l'estral qu'il avait transformé, de Valanche qu'il referait sur le même modèle. Les autres l'écoutaient, béants, éblouis par les millions que remuaient ses paroles, en songeant aux billets de banque qui bourraient ses coffres forts, au pouvoir qu'il possédait de brasser des trésors et de recréer le monde. Rangés autour de lui, leurs durs visages tendus dans un effort d'attention, immobiles, suspendus à ses lèvres, les vieux mettant leurs mains ridées en cornée sur leurs oreilles par crainte de perdre une de ses paroles, ils en oubliaient de vider leurs verres. Flamand, si loquace d'ordinaire, se taisait, sachant sa cause en bonne main. Nantelme, presque seul, osait placer un mot de temps en temps. Élise Allais, qui apportait elle-même les bouteilles, restait debout, derrière les hommes, les mains sous son tablier noir, son joli visage grave brillant d'intelligence et de curiosité. Et la lampe à pétrole, suspendue au plafond, jetait sa faible lumière sur ces figures d'un autre temps, qui eussent fait penser aux conspirateurs des âges héroïques plutôt qu'à des spéculateurs réunis pour discuter une affaire. Rarogne allait toujours. « Vous voyez bien, par mon exemple, qu'il ne faut pas avoir peur. Mais vous avez peur du chemin de fer, peur du grand hôtel, peur de moi, peur de tout, en vrais enfants que vous êtes. Ils étaient comme vous, ceux de l'Estral, au commencement. Ils ne voulaient rien écouter. À tout ce qu'on leur disait, ils répondaient qu'ils ne voulaient pas gâter leurs champs, leurs misérables lopins de terre, où les récoltes sont toujours maigres comme le carême. Ils croyaient qu'on ne peut gagner sa vie que la pioche ou la bêche à la main. » Nantel eut l'audace d'interrompre, jugeant le moment venu de placer son argument favori. « N'est-ce pas ce qu'ont fait nos pères ?» Son interruption excita Rarogne, qui le foudroya d'un regard de ses petits yeux vainqueurs, tapa du poing sur la table et répliqua en élevant la voix. « Est-ce qu'ils savaient, nos pères ? Eh, parbleu, s'ils avaient su, ils auraient fait comme nous. Mais de leur temps, ça n'était pas la même chose. Il n'y avait pas le chemin de fer, le télégraphe, les hôtels, tout ce qui fait la commodité des voyages. Et c'est à peine si l'on voyait, de 7 en 14, un Anglais dans la montagne. Savez-vous, vous ressemblez à des gens qui ont un trésor et qui l'enfouissent. Ils savent qu'ils l'ont, ils savent où il est, et ils le laissent croupir dans la terre, comme des fainéants ou des nigauds. On m'a dit qu'il y a par ici un tas d'histoires de trésors cachés dans les montagnes, et de gaillards qui vont les chercher la veille de Noël, pendant que le curé prie pour eux. Eh, sapristi, ce n'est pas à minuit qu'il faut courir après, c'est en plein jour. Vous n'avez qu'à vous mettre à l'œuvre. Voyez Zermatt, voyez l'Estral, voyez moi. Si j'avais gardé, sans rien y changer, l'auberge de mon père, est-ce que je serais là aujourd'hui, à faire construire un hôtel de 200 chambres, à vous prêcher vos intérêts, à vous payer du bon vin? Car il est fameux, madame Allée, votre fendant. Allez, allez, le monde avec sa richesse n'est ni aux paresseux ni aux timides. Il est à ceux qui le veulent, à ceux qui le prennent. Ils rayonnaient, les jeunes, les audacieux, leurs yeux éclairés comme des lanternes qui s'allument. Ils se poussaient du coude et leur murmure approuvait. « Parbleu !» fit Gaspard Clévoz. « Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, voilà tout !» Sa congénitale paresse éclatait si naïvement dans cette exclamation que Rarogne en devina le rêve candide et doré. « Ah non, mon gaillard » s'écria-t-il. « N'allez pas croire que ça vient tout seul, comme les mauvaises herbes dans les champs. Non, non, l'on ne fait rien avec rien, dites-vous bien ça. Si vous voulez réussir, tous tant que vous êtes, vous ferez comme moi. Vous y mettrez votre peine, votre sueur, votre argent. » À ce mot d'argent, les visages se renfrognèrent. Les vieux échangèrent des regards inquiets, comme si des mains invisibles eussent menacé leurs bourses de cuir, ficelées au fond de leurs poches. Rarogne sentit que leur silence le désapprouvait, qu'une opposition se formait peut-être. Mais, au lieu de battre en retraite, il fonça sur elle, en vaillant taureau de combat qu'il était dans l'âme, en vrai descendant d'une race qui ne craignait pas les coups. « Oui, votre argent !» répéta-t-il en les regardant dans les yeux à la ronde. « Votre argent aussi, vous m'entendez? L'argent est une graine comme une autre. Il faut le semer pour qu'il pousse. Il n'est pas fait pour rester caché dans des bas ou dans des pétrissoirs. Il est rond, c'est pour mieux rouler, diable de diable. Et en roulant, il fait pelote, comme la neige. » Il y eut un silence. Tous les regards se fixèrent sur le président Combes, comme si l'on attendait de lui le dernier mot de l'affaire. Il se gratta le nez un bon moment en réfléchissant, et il finit par dire « C'est bien sûr qu'il faut faire ce qu'il faut. » Sur cette prudente parole, qui arracha à Flamand un geste de découragement, Élise allait s'en fut chercher de nouvelles bouteilles. Rarogne, cependant, à peine un instant décontenancé par cette cauteleuse inertie, répliqua « Il faut faire plus qu'il ne faut, président, sauf votre respect. C'est à cette condition qu'on réussit. » Voilà qui est parlé, fit Joseph Cascaté, enthousiasmé par cette énergique réponse. Rarogne continua en s'emballant. Surtout, il faut savoir ce qu'on veut, mes amis. Vous êtes là tous à rouler dans vos têtes des objections que vous ne dites pas. Et le diable sait quel calcul de méfiance. Vous hésitez, vous tâtonnez, vous tergiversez, si bien que, sans l'incendie de l'automne, votre valange resterait un trou pendant 10 et 15 ans encore, et les vieux mourraient sans avoir vu ce que vous verrez bientôt, pauvres comme ils sont nés. C'est grâce au feu, plutôt que grâce à vous, si dans 2 ou 3 ans, l'argent vient au pays comme l'eau descend à la tose au dégel. Vous le ramasserez à la pelletée, tas de trembleurs. Vous cueillerez en une saison plus de louis d'or que vous n'avez jamais récolté de pommes de terre. Vous parlez de vos pères. Eh bien, s'ils vous voient, ils se diront « En voilà des gaillards qui ont de la chance, et nous aurions autrement vécu, nous, si nous avions su faire comme eux. » Ces paroles les grisaient, les valanchaient, plus que le vin doré qui coulait dans leurs verres. Car leurs robustes têtes, faites à l'alcool comme au vertige, ignoraient ces ivresses-là, ce breuvage d'ambition, de lucre, de cupidité que Raroigne leur versait à large rasade. Les jeunes, excités comme le moût qui fermente, sentaient bouillonner en eux de confuses idées, que l'un d'eux, parmi les plus débrouillards, allait bientôt se charger d'exprimer. Les autres ne réfléchissaient plus, prêts à s'emballer à leur tour. S'ils se taisaient encore, ce n'était plus que par un reste obstiné de réserve prudente, qu'un dernier vers et un dernier discours allaient sans doute emporter. Quelque habitués qu'ils fussent à dissimuler leurs pensées, elles transparaissaient dans leurs yeux allumés, dans les frémissements de leurs lèvres, dans les expressions inquiètes, mobiles, tendues que prenaient leurs rudes visages, muets d'habitude, remués maintenant comme par un orage intérieur. Volant sentit son cœur se serrer, à les voir ainsi changer de minute en minute, s'éloigner d'eux-mêmes, s'ouvrir à des appétits jusqu'alors contenus, aux passions de lucre qu'avaient si longtemps réprimé leur existence de labeur âpre, incessant, si peu récompensé. Les derniers doutes qu'il conservait sur ce qu'il appelait quelquefois la question du progrès s'évanouirent. Il se jeta dans la discussion. « Ma parole ! » s'écria-t-il. « Vous êtes un homme dangereux, monsieur de Raroigne !» Les murmures d'approbation que venait de soulever le discours du grand aubergiste s'arrêtèrent. Il se fit un profond silence, car tous respectaient Volant, qu'il regardait comme une façon d'oracle. Volant continua. « Vous ne pensez qu'à vos intérêts, monsieur de Raroigne. Les montagnes sont pour vous une matière qu'on exploite, comme les ardoises des carrières. Ça se vend par petits morceaux. Que ça rapporte, vous n'en demandez pas plus. Vous ne voyez donc pas qu'il y a tout autre chose en jeu. Il y a ici, dans ce repli caché des Alpes, loin du reste du monde, assez large pour l'amour du gain, il y a un pays qui, depuis des siècles, vit de sa propre vie, fidèle à des mœurs, à ses croyances, à ses traditions, un bon petit pays, ignorant des laides passions qui avilissent les hommes des villes. Vous arrivez, vous semez quelques pelletées d'or dans ces champs ingrats, et vous dites que l'argent est une graine comme une autre. Ah oui, malheureusement, une triste graine, monsieur de Raroigne. Une graine qui germe en vilains appétits, une graine maudite qu'aucun mauvais vent n'avait encore apportée par ici. » Peu accoutumé à être contredit, Raroigne écoutait la tirade avec impatience, en tambourinant de ses gros doigts un air de charge sur la table de sapin. Il répondit en gouaillant « Vous parlez d'or, monsieur Volant, vous prêchez en apôtre, bien mieux que le curé lui-même, les jours où il est en train. Mais dites donc, pourquoi voulez-vous absolument que ces braves gens restent de pauvres gens? N'ont-ils pas les mêmes droits que d'autres, qui ne les valent pas? Droit au bien-être, à l'aisance, au pain assuré pour la vieillesse? Voyez Balthazar, il vieillit, il a des rhumatismes, il ne pourra bientôt plus courir après les chamois. Alors, ça sera gai, sa fin. Et il s'en doute. Vous, monsieur Volant, vous êtes à côté de la question. C'est que vous êtes un poète, un artiste, et non pas un homme pratique. Vous oubliez que le monde marche, qu'il faut marcher avec, que ceux qui ne marchent pas seront broyés comme des fétus par la grande machine de la civilisation. Voyez-vous, au siècle où nous sommes, le bien-être et l'argent s'éparpillent partout. Que chacun en prenne sa part, ceux d'ici comme les autres, d'autant plus qu'il y a trop longtemps qu'ils n'ont rien eu. Ils ont toujours eu l'union, l'honnêteté, l'honneur. Ce n'est ni l'argent ni le bien-être qui rendent heureux. Ceux qui savent se contenter de peu sont plus riches que ceux qui veulent toujours davantage. Qu'en dites-vous, les vieux? Croyez-vous que vous avez été moins heureux que ceux de Zermatt ou de l'Estral? Il regardait Vieille Suisse, Maurice Combe, Balthazar, qui détournèrent les yeux. C'est qu'ils ne savaient pas, les pauvres, ils ne savaient plus. Au fond de leurs souvenirs, ils apercevaient les figures disparues de leur père et de leur grand-père, de leur mère et de leur grand-mère, qui dormaient maintenant au pied du clocher, après tant de voyages, tant de fatigues, tant de sueurs versées sur le sol ingrat. Ils se rappelaient confusément leurs plaintes, leurs soucis, leurs chagrins, les mauvais coups du sort dont ils avaient tant souffert, les avalanches emportant leur maison, les colères de la tause détruisant leurs récoltes, le gel, la grêle, les orages, les incendies, les mille hasards hostiles qui les avaient courbés toute leur vie sous leurs constantes menaces. Devant eux, ils voyaient Rarogne, habillé comme un monsieur, avec un diamant au doigt, une grosse chaîne d'or étalée sur son gilet, riche comme un prince, heureux de vivre, honoré par tout le monde, représentant son canton au Conseil national. Alors il restait plein de doutes, n'ayant plus de notions claires sur rien. « Vous voyez qu'ils ne répondent pas, » dit Rarogne en goguenardant. « C'est qu'ils voient clair à présent. Il leur a fallu du temps, mais je crois bien que ça y est. Ils ont des têtes dures, mais quand une idée y est entrée, elle y reste et y fait son chemin. Aussi, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, monsieur Volant. Vous n'empêcherez pas qu'ils se rappelleront mes paroles. Et vous verrez qu'ils en feront leur profit, car ils sont plus malins qu'ils n'en ont l'air. C'est moi qui vous le dis. » Comme leur murmure approuvait, Volant comprit qu'il faisait fausse route. Il avait parlé pour lui, pour la défense de ses goûts pittoresques et romantiques. Il voulut essayer de parler pour eux, en se plaçant à leur point de vue, en tenant compte de leurs besoins. « Pas autant que vous, monsieur de Rarogne, » dit-il. « Allez-vous nous dire que c'est pour leurs beaux yeux que vous venez bouleverser le pays ? Voyons, soyez précis. Qui est-ce qui bénéficiera du changement que vous voulez faire ?» Rarogne affirma, d'un ton bonhomme, « Eh, parbleu, un peu tout le monde !»« Et vous surtout !» corrigea Volant. « Oui, vous, et d'autres gens comme vous, mais qui ne sont pas eux. Ça n'est pas bien difficile à comprendre. Ils n'ont pas de capitaux, eux. Ils seront donc obligés de recourir aux vôtres, parce qu'il leur faudra des fonds, toujours plus de fonds. Ils ne savent pas le métier d'aubergiste. Pour le pratiquer dans les conditions nouvelles, ils voudront profiter de votre expérience. Vous ne la leur prêterez pas pour rien, n'est-ce pas ? Voyez où cela nous conduit. Jusqu'à présent, dans leur pauvreté, ils ont eu le premier des biens, l'indépendance. Leur coin de terre est bien à eux, et ils n'en doivent compte à personne. Chacun l'exploite à sa manière, mène son petit commerce comme il l'entend. Chacun est maître chez soi, enfin. Maintenant, vous, oui, vous ou d'autres qui vous ressemblent, vous serez l'intermédiaire obligé entre eux et les étrangers qui doivent les enrichir. Ils ne pourront rien sans vous. Ils n'existeront que par vous. « Mais !» interrompit Rarogne. « Laissez-moi finir. Vous répondrez après. Car j'ai encore une chose à dire. Ce village a toujours vécu dans la concorde et dans l'union, sans lesquelles il n'aurait jamais pu prospérer malgré la dureté de sol. Eh bien, la concurrence amènera la discorde et les procès. Les voisins et les parents se déchireront les uns les autres, comme partout où l'on se dispute le superflu au lieu de s'entraider pour le nécessaire. Tout cela, je le répète, à votre profit, car au lieu d'être leur maître, ils ne seront plus que vos portiers, vos sommeliers, vos garçons de café, vos sujets, quoi. » Cette fois, ces paroles portaient. Les visages des auditeurs s'assombrissaient, comme s'ils découvraient soudain l'envers de leurs espérances. Vieille Suisse hocha la tête d'un mouvement de haut en bas qui semblait approuver. Un pli d'inquiétude barra le front du président. Rarogne fit un grand geste de colère et de dédain. « Bêtise que tout cela !» s'écria-t-il brutalement. « Oui, c'est vrai, ils ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Des bêtes de somme, toujours ployées sous des charges de litière, de foin ou de fumier. Des malheureux dont le pain dépend d'un caprice du ciel, d'une averse de grêle ou d'une nuit de gel. Ils seront des hommes comme vous et moi, 10 fois plus libres qu'à présent. Au lieu de végéter comme des plantes sur un sol trop maigre, ils pourront croître et prospérer en raison de leur travail, de leur volonté. Voilà la vérité, monsieur Volant. Voilà ce qu'ils seront, aussi vrai que j'existe. » Comme il sentit que les esprits lui revenaient, il voulut clore la discussion et leva son verre en disant « C'est pour cela que je bois à leur santé et à l'avenir de Valanche. » Volant leva aussi le sien. « À son passé, monsieur de Rarogne, » répondit-il. Sa voix tremblait d'émotion. Il ajouta « À son cher et saint passé, à son passé de travail, de courage, d'union, d'indépendance, d'honnêteté. » Malheureusement, il se laissa reprendre par ses instincts de poète. Il ajouta « À la pauvreté aussi, si vous permettez. C'est elle qui fait les hommes, les vrais et les héros. Qui est-ce qui trinque avec moi ?»« Bravo !» dit Nantel en tendant son verre. Mais il fut le seul. Les dernières paroles de Volant avaient détruit le bon effet de ses discours. Aussi, tous les autres tendirent-ils leurs verres à Rarogne, narquois et triomphant. Même vieille Suisse, même Maurice Combes, l'ami des jours anciens, le compagnon des glorieuses premières. Pourtant, celui-là eut une espèce de remords et dit à demi-voix, comme pour s'excuser, « Que voulez-vous, monsieur Volant, il faut bien qu'on pense à ses intérêts. » « Parbleu !» approuva d'un ton provoquant Joseph Cascaté, qui l'avait entendu. « Si vous croyez qu'on n'en a pas assez d'être pauvre, depuis des siècles que ça dure !» Le gros flamand se frottait les mains. « Gare à ceux qui se mettent en travers du progrès » dit-il avec son vilain accent rauque. « C'est comme si l'on voulait arrêter une locomotive. » Cependant, Élise Allais approcha de Volant. Elle ne l'approuvait pas, certes, étant énergique comme un homme et prête à tout pour assurer un bel avenir à ses deux jumelles. Mais elle avait ce besoin de consoler qu'ont les femmes dès qu'elles voient souffrir. Et, lui touchant doucement l'épaule, elle lui dit « Ne vous faites pas trop de chagrin, monsieur Volant. Vous verrez que ces affaires s'arrangeront mieux qu'on ne pense. » Chapitre 6. Lorsque, au premier jour de juillet, les habitués de Valanche arrivèrent au village, ils en trouvèrent la métamorphose avancée. Selon la décision du conseil, le vieux lavoir en tronc d'arbre avait disparu, pour être remplacé par un beau bassin de pierre, où des goulots de cuivre versaient en jets comprimés l'eau froide, abondante et claire. Les traces de l'incendie disparaissaient peu à peu. Des maisons s'élevaient sur les décombres, montant au milieu du tapage des maçons et des charpentiers. Pas une planche ne restait du chalet Clévoz. Les murs du futur hôtel commençaient à sortir de terre. Gaspard les regardait joyeusement s'élever, les mains dans les poches d'un veston neuf acheté à la ville, et profiter de l'occasion pour ne rien faire. Tandis que vieille Suisse, la mine renfrognée, une inquiétude au fond des yeux, rôdait comme une âme en peine autour des échafaudages, n'ouvrant la bouche que pour désapprouver Tartinelli. Plus les travaux avançaient, moins il se trouvait d'accord avec son fils. Celui-ci voulait qu'on se dépêchât, au risque d'augmenter les dépenses. Celui-là voulait aller doucement, sans hâte, en faisant toutes sortes d'économies qui prennent du temps. L'un voulait 4 étages, l'autre n'en voulait que 2, avec des mansardes. Le père disait, anxieux, « Et quand l'argent manquera ?» Le fils répondait avec sa belle assurance, « On en trouve toujours. D'abord, il y a les champs qu'on peut vendre, et puis, Amphès, le banquier de Martigny, prêtera tout ce qu'on voudra sur les constructions commencées. » Alors le vieux se fâchait et criait, « Tu sais bien que je ne veux pas de ça. Je ne veux ni vendre, ni emprunter. Les champs, c'est notre pain. Les dettes, ça dévore le pauvre monde. Les banquiers sont des canailles qui vous tordent jusqu'à ce qu'il ne reste rien. » Mais Gaspard le laissait dire, bien convaincu qu'il aurait le dernier mot. De fait, c'était lui qui commandait maintenant. lui qui menait à sa guise l'affaire de la maison, comme si l'autorité, l'influence et la considération de son père s'étaient effondrées avec le vieux chalet. Aussi les gens disaient-ils « Vieille Suisse est finie, il a beau crier, ce n'est plus lui qu'on écoute. » Le pauvre Henri David le savait bien. Il ne grognait plus qu'en hésitant, chaque jour un peu moins fort que la veille. Il n'osait plus sortir ses vieilles idées, démonétisées comme des pièces du pape. Mais une pensée le tourmentait, malgré ses efforts pour s'armer d'insouciance. Car ce n'est pas pour soi seul qu'on travaille, n'est-ce pas? On pense à ceux qui viendront après, à la lignée des petits-fils et des arrière-petits-fils, auxquels on veut laisser le foyer héréditaire, les champs conquis par les ancêtres, qu'on a élargis ou améliorés, tout ce qui fait la famille, enfin, le tronc sacré qui retient les rameaux, qui leur amène par ses racines invisibles la sève féconde, les sucs nourriciers de la terre. On est ainsi là-haut. On sait bien qu'un homme et qu'une génération d'hommes comptent peu, que ce qui vaut, c'est la succession lente des fils aux pères qui ont peiné pour eux, l'effort collectif de la race, acharné à la même besogne depuis l'époque oubliée où quelques tribus nomades, poussant devant soi ses troupeaux, découvrit la vallée et s'y arrêta pour la féconder. Que resterait-il de ce passé dans les champs saccagés? Vers quel avenir incertain marchait-on sur les traces de ces ingénieurs allemands, de ces maçons italiens, de ces capitalistes zurichois, de ces étrangers, de ces spéculateurs, qui, sûrement, ne pensaient pas au bien-être du village, mais à remplir leurs poches? Poudre aux yeux, leurs belles paroles! Leurs promesses, un tas de mensonges! En y réfléchissant, on le devinait bien. Leur présence signifiait la dépossession des vrais propriétaires, des familles dont le labeur séculaire avait créé l'herbe, le blé, les chalets, les chemins, les pâturages, toute la richesse, tout l'espoir du pays. Pour sûr, vieille Suisse n'aurait pas su exprimer ses idées. C'est peut-être pour cela qu'il se taisait. Mais il les roulait dans sa tête blanche, confusément, comme ces eaux troublées qui portent, sans s'en douter, des pierres où il y a de l'or. Les anciens amis de Valanche, cependant, se lamentaient ensemble, autour de la table du chamois, que les Anglais menaçaient déjà d'envahir. Ou bien ils tâchaient de sermonner les habitants du village, ceux du moins qu'ils pensaient hésitants ou indécis. Presque chaque jour, Marthe Le Chêne et Marie Baudoire montaient ensemble aux crêtes, chez César, qu'elles affectionnaient, pour le chapitrer dans la cuisine, pendant que sa femme surveillait sa soupe qui cuisait pour la famille. C'était presque une alliée, celle-là. Avec ses bons yeux francs de chien fidèle, elle se méfiait de tout et de tous. Et bien que son homme l'accusât volontiers de n'y pas voir plus loin que le bout de son nez, elle avait un bon sens prudent qui ne pouvait jamais nuire. « Voyons, César, » disait Marthe, qui voulait que les paroles conduisissent à des décisions fermes. « C'est dimanche prochain que l'Assemblée générale vote pour le chemin de fer, n'est-ce pas ?»« Oui, mademoiselle, je crois bien que c'est dimanche. »« J'espère que vous allez voter, non ?» César, dont le siège était fait, se dandinait sur sa chaise et finissait par dire « Il y a le pour et il y a le contre, mademoiselle. » Marie Baudoire, plus passive que son amie et un peu dolente, murmurait « Oh, César, comment pouvez-vous dire qu'il y a du pour ?»« En tout cas, » reprenait Marthe avec énergie, « c'est le contre qui est le bon. Vous en avez convenu l'autre jour. » César ne bronchant pas, elle invoquait sa femme. « N'est-ce pas, reine ?» Alors, reine s'interrompait d'écumer sa soupe, et le poing sur la hanche disait avec des soupirs « Ah, ma bonne demoiselle, si seulement tout ça n'était pas arrivé. C'est bien comme je le répète à César. On était tranquille avant ces histoires d'hôtels et de chemin de fer. À présent, on ne sait plus où l'on va, Et puis, il y en a qui nous disent blanc, il y en a qui nous disent noir. On n'y voit plus goutte, mademoiselle. Monsieur le curé lui-même, il ne sait plus que nous conseiller. Pas plus loin qu'avant-hier, il s'est arrêté en revenant des Maillans de Belle, et il nous disait « Ah, ce chemin de fer! Ce chemin de fer, quelle affaire !»« Pas vrai, César ?» César confirma du geste. « Cela n'est pas une opinion, » dit Marthe. « Il a dû vous dire autre chose. Voyons, qu'est-ce qu'il en pense, dans le fond ? Lui qui est intelligent et connaît bien le pays. » Les deux époux se consultèrent des yeux. Puis la femme, s'approchant davantage et regardant autour d'elle, comme pour s'assurer qu'aucun intrus ne pouvait l'entendre, baissa la voix pour dire mystérieusement. « Ce qu'il pense dans le fond, monsieur le curé, vous voulez que je vous le dise, mademoiselle ? Eh bien, je crois bien dans le fond, il pense comme moi. Si seulement tout ça n'était pas arrivé !»« Mais encore une fois, c'est arrivé !» s'écria Marthe, qui perdait patience. « Maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'au bout ? Voilà la question. Et cela dépend de vous. C'est vous qui êtes les maîtres, en somme. » César hocha la tête. « Les maîtres ? » fit-il. « Les maîtres, à présent, ça pourrait bien être ceux qui nous apportent de l'argent. » Et il fallait battre en retraite, sans avoir gagné un pouce de terrain. Quand arriva le dimanche de l'assemblée, Flamand triompha sur toute la ligne. Des gens à lui, postés le long de la Rouge, surveillaient les charretiers de Serviaise. Depuis longtemps, on leur répétait qu'aucun de ceux qui prendraient part au vote ne serait employé aux travaux de construction de la ligne, et ils restaient chez eux, les pauvres, à rager en silence, vaincus par la force invisible qui les empêchait même de défendre leurs intérêts. Comme si déjà ce pays, dont les chemins connaissaient si bien le goût de leur sueur, eût été la propriété des banquiers anonymes que représentait Flamand. Quant à ceux des Crêtes, des Jeurs, des Plans, endoctrinés, abreuvés surtout, ils se désintéressaient de la question, puisque, aussi bien, le chemin de fer ne leur ferait ni chaud ni froid. Pour le moment, il leur valait du vin gratis, ce qui est une aubaine rare et de bon augure, car depuis le samedi soir, le vin coulait comme l'eau des sources, perfide comme l'argent dont il augmentait la force. Le dimanche matin, à la messe, plusieurs faisaient déjà la bise. Aussi le curé crut-il devoir introduire dans son prône quelques bons conseils sur la tempérance. Mais les plus éméchés s'étaient endormis sur leur banc, et les autres se disaient que, quand le vin ne coûte rien, il faudrait être fou pour cracher dans son verre, d'autant plus qu'on pouvait boire sans s'engager à rien. Flamand ayant dit « La compagnie ne vous demande pas vos voix, elle est sûre de son affaire, la compagnie, et comme elle est contente, elle paye à boire, voilà tout. » Il ne mentait pas, le rusé compère. Il savait à quoi s'en tenir sur les opinions des gens. Il avait des promesses. N'en eût-il point eu qu'il aurait encore été tranquille, car depuis qu'il travaillait dans le pays, il voyait, sous la réserve des apparences, les têtes fermenter si bien que le vin ne pouvait guère les échauffer davantage. Il savait que ses frustes imaginations, d'habitude immobiles dans la lenteur des travaux et la monotonie des jours, galopaient maintenant, même les plus paresseuses, comme les génissons par les prés. Il les devinait tous, jeunes et vieux, beaucoup plus résolus qu'il ne voulait le paraître, mûrs pour ses projets, comme le raisin à la vendange. Et en effet, l'Assemblée générale consacra son triomphe. Elle se tint, comme toujours, dans la salle de la maison de commune. Cela fut simple et court. Au milieu d'un profond silence, le président donna lecture du texte de résolution que le conseil soumettait à l'Assemblée. Préavis favorable à la concession que demandait la compagnie et fourniture gratuite de tout le bois nécessaire au tronçon qui passerait sur le territoire de la commune, depuis la gare de Serviaise jusqu'au Trécou. Ensuite, il fit un petit discours, comme il savait les faire, pour expliquer les raisons qui avaient engagé le conseil à entrer dans cette voie. Puis, personne ne demandant la parole, il fit voter à main levée. « Qui est-ce qui vote pour le projet ?» Presque toutes les mains se levèrent. Les plus fanatiques, comme Gaspard Clévoz et Joseph Cascaté, brandirent leurs deux bras. Pour la forme, le président demanda « Ceux qui sont contre ?» Il y eut juste 6 mains qui se levèrent pour se rabattre au milieu des moqueries. Un loustic s'écria « Il y a doute, faut la contre-épreuve !» Un grand éclat de rire lui répondit. Le président proclama « C'est accepté, la séance est levée !» Et l'on retourna boire le vin qui ne coûtait rien. Pendant toute la semaine qui suivit, il arriva des caravanes de voyageurs. Le samedi, Julien Sterny. Il venait de passer une année errante et incertaine, encore ballotté par les vagues des mauvais souvenirs, plus apaisé pourtant, plus calme, le temps accomplissant son œuvre. Les images de sang imprimées dans ses yeux s'effaçaient lentement. Les figures qu'il voulait fuir prenaient ce flou, qu'ont dans la mémoire les figures mortes qui s'éloignent et flottent à travers des brumes avant de disparaître, emportées par l'éternel renouveau de l'être. Et il aimait à penser que son séjour à Valanche avait commencé à le délivrer de son obsession. Pourtant, s'il se trouvait mieux, il n'était point guéri. Repris souvent par ses crises noires, il demeurait désemparé, incapable de ressaisir la direction de sa vie, tourmenté à la fois par la nécessité et par l'impuissance d'en rétablir le cours. Le problème du « que faire ?» qu'il se posait depuis quelques mois, le hantait comme insoluble. Reprendre ses occupations anciennes, il n'aurait pu, tant elles lui semblaient fastidieuses. S'en créer d'autres, il ne savait lesquelles, car nul ne l'attirait. Il avait donc voyagé, dans le Midi, en Italie, cherchant la distraction des spectacles célèbres, églises, musées ou paysages, livré à l'esclavage de la vie oisive qui s'étire et s'étiole dans la longueur des jours inutiles. Souvent, dans ses chambres de hasard ou sur les terrasses des hôtels, il pensait aux braves gens laborieux qu'il revoyait, rangés à la file, le long de l'échoppe du cordonnier, aux étrangers modestes dont les propos l'avaient un instant amusé ou distrait, à Volant à qui l'unissait un commencement d'amitié, à Madeleine, belle et grave, dont le regard se levait sur lui, chargé de mystères et de questions, tel qu'il l'avait rencontré depuis sa conversation avec M. Vallée. Comment le jugeait-elle, mon Dieu? Sachant de lui l'unique chose qui pourrait le rendre à ses yeux odieux ou méprisable. Parti 2 jours après la scène de Saulnoir, il lui avait à peine dit adieu, en étranger, en indifférent. Il la quittait alors en songeant qu'il ne la reverrait jamais. Puis, à force de se rappeler le charme subi auprès d'elle, il avait désiré et craint de la revoir. Comme s'il eût pu attendre d'elle son salut et sa joie, comme si son passé ne le séparait pas pour toujours d'un sentiment normal et sain. S'il revenait, maintenant, surmontant la crainte d'être un objet de curiosité aux paisibles hôtes de Valanche, peu accoutumé à voir parmi eux des héros de mélodrame, c'était sans dessein, presque sans s'en être aperçu. D'accord avec son instinct secret, le hasard, sous la forme d'un ancien ami rencontré à Milan qui lui demanda de l'accompagner jusqu'en Suisse, l'avait conduit à travers le Simplon. En revoyant s'étendre sous ses yeux la blancheur des glaciers, il frémit du désir de retrouver les paysages de l'an dernier. Comme ensuite, ayant laissé partir son compagnon, il errait par les rues désertes de Brigue. Il relut, sur la façade de la vieille maison délabrée des Wegener, l'inscription remarquée autrefois. « Corpora morte cadunt, corda ligata manent ». Il fut étonné de lui découvrir un sens nouveau, un sens d'espoir, en sorte qu'il prit son billet de chemin de fer pour Serviez, sans l'avoir décidé, et gravit, presque sans le vouloir, la route enlacée que bordent les châtaigniers aux belles aiguillettes, les noyers dont les branches s'élancent en gestes passionnés, les sapins dépouillés comme des vieillards chauves. Et voici qu'ému jusqu'au fond de son être, il reconnaissait la vieille église, le banc des vieux, l'échoppe du cordonnier, et se trouvait devant la porte du chamois, où Élise allait l'accueillait avec un sourire amical de ses jolis yeux gris. « Eh, monsieur Sterny, c'est vous ? Vous nous revenez donc ?»«
On revient toujours à Valanche, madame Allée. » »«
Ça, c'est vrai. Vous vous étiez fait tant de bien ici. Et vous savez, monsieur Sterny, vous avez bien meilleure mine que l'an dernier. »
Sterny demanda « Est-ce que je vais retrouver des figures de connaissance ? Qui est-ce qui est ici, des anciens ?»«
Des anciens ? Eh bien, il y a monsieur Sergine, madame Sauge depuis hier, mademoiselle Lechêne et mademoiselle Baudoir qui sont là depuis quelque temps, monsieur Planteau qui fait des courses. »
« C'est tout ? » demanda-t-il.
« Oui, c'est tout, pour le moment. »«
Ah, pour le moment, ainsi vous en attendez d'autres. »
« Oh, j'espère bien. Monsieur Volant, d'abord. »«
Monsieur Croissy ? » ?»«
Lui, vous savez, il vient plus tard, en automne. »
Sterny, enfin, lâcha le nom qui lui brûlait les lèvres. « Et les valets ? » ?»«
Je ne sais pas s'ils reviendront. Ils ne sont pas annoncés. »
Aussitôt, le décor, radieux tout à l'heure comme s'il allait éclater de joie, s'attrista. Les flancs sombres de la mâle se parurent plus noirs, l'élégante silhouette de la Pernelle se couvrit d'une teinte de mélancolie. Les lueurs d'or du couchant ne furent plus qu'un voile de deuil sur l'arête dentelée de la Dent Rouge. Hélas ! Que sont les lieux les plus chers sans les figures que nous aimons ? Quels paysages peuvent suffire aux cœurs assoiffés de tendresse ? Sterny venait de comprendre que Madeleine seule l'attirait à Valanche. Son espoir déçu, il s'engagea sans entrain dans la ruelle qui conduit au chalet des Jumieux, où il allait retrouver sa chambre, encore peuplée de ses rêves. Les deux époux mangeaient leur soupe, en plein air. L'homme un peu plus gros, si possible, soufflant court, posé comme un boulet sur son escabeau. La femme, aussi alerte, avec la même vivacité dans ses yeux pétillants. Mais l'arrosoir n'était plus là. Le dernier mot, après une nouvelle crise, ayant fini par rester au curé. Le lendemain, étendu sur le rocher qui domine le cimetière, Julien suivait, comme l'an d'avant, la bénédiction des tombes. Bientôt sa pensée se dissipa dans une vague rêverie, montant vers l'infini comme les légers nuages que le vent disloquait autour de la Dent Rouge. Des mots n'auraient pu la traduire. C'était une aspiration, presque une prière. Au fond de lui, s'éveillaient à demi d'obscurs souvenirs ancestraux, un reste oublié de sentiments, d'idées, de croyances antérieures, dont les invisibles molécules subsistaient sous une autre couche, pareils au caractère d'un palimpseste qu'on ne voit plus, parce que d'autres les ont recouverts, et qui pourtant sont les plus précieux, les seuls vrais. Ce travail inconscient éclairait à son âme le secret lointain de ses origines. Il se sentait le fils de cette antique terre que tant de convulsions ont soulevée, que les glaciers ont longtemps meurtri de leur poids inexorable, qui maintenant offre aux hommes l'ombre de ses sapins, la fraîcheur de ses sources, la beauté de ses vallées. Il se sentait le frère de ces petits qui priaient sur les tombes, dans leurs vestes du dimanche, rattachés par leurs pieuses pensées à la chaîne des générations. Il n'était plus lui-même, c'est-à-dire un pauvre être isolé, égoïste, inutile et vaincu, mais un atome d'un plus large organisme, un fragment bien vivant d'un tout actif et généreux. Ce fut une heure d'espoir et de réconfort. Puis les fidèles étant entrés dans l'église, derrière le camail rouge du prêtre, et le cimetière étant vide, Julien se leva en soupirant. Il n'est point si facile de se délivrer entièrement de soi-même. Quelques jours de pluie faillirent le chasser de Valanches, car, dès que les orages apportés par le vent de Savoie crèvent sur la vallée, elle devient sinistre. Des brouillards s'amoncellent dans les gorges de la Tause, rampent au flanc de la Matte comme de formidables reptiles, ferment et bouchent l'horizon, en haut, en bas, de tous côtés. On est dans une prison de nuages, sous un couvercle de nuages épais comme les murs d'un cachot, lourds comme les pierres d'une forteresse. Un air glacial vous pénètre jusqu'aux moelles, et la pluie tombe, fine, serrée, sans pitié, sans trêve, dégouttant avec un bruit lugubre des ardoises des toits, labourant la place, emplissant les ruelles d'une boue grasse et noire, tandis qu'au haut du clocher, le coq de la girouette grince en s'agitant. Les hôtes du chamois grelottaient dans le petit salon au rez-de-chaussée, tuant le temps à boire des grogs ou du thé, à relire les fascicules dépareillés de quelques revues, à guetter le passage du facteur, devant la place vide du vieux lavoir, où, jadis, par les pires journées, les ménagères venaient laver, tordre et battre leurs draps. Mais le soleil chassa les nuages. De nouveau, plus fraîche après les averses, la vallée s'épanouit comme un grand nénuphar semé dans l'espace, avec toutes ces verdures humides qui s'irisaient dans la lumière, tandis que les formes des montagnes prochaines s'estompaient, presque transparentes dans le ciel bleu, en sorte que, par une aube fraîche, Sterny se trouva sur le sentier de Saulnoir, en compagnie des demoiselles Lechêne et Baudoire, qui se joignirent à lui, simplement, gravissant le sentier de leurs pieds de chèvre, embroutant au passage les fraises, les myrtilles, les fleurs. Ils traversèrent le vallon de Belle, enfonçant dans les hautes herbes mûres pour la faux. Ils remontèrent les pendes, énormes en ce moment de l'année où fondent les neiges encore molles. Ils arrivèrent dans le grand pâturage. Sous les parois rocheuses qui la ferment, au pied du glacier de la Tour aux Fées, la plaine gazonnée et marécageuse s'étendait, si profondément solitaire qu'on pensait à ce que fut le monde au temps de sa virginité, quand les êtres ne se mêlaient pas encore aux choses, ou quand il n'y avait, pour animer les paysages déserts, que des monstres aux formes lentes, à peine dissemblables du lit monde où le Verbe les tirait. Cependant, pour atténuer la tristesse sauvage de cette impression, des fleurs éclatantes s'épanouissaient en une symphonie de couleurs et de grâces, car c'est dans l'enchantement du printemps que l'Alpe est la plus belle, constellée de fleurs comme un ciel où il n'y aurait que des étoiles, gemmée de fleurs comme une chevelure où luiraient plus de pierreries qu'il n'y en a dans les contes de tout l'Orient. Ce sont de vastes champs de rhododendrons, d'un rouge vif, dressés sur leurs tiges ligneuses aux dures feuilles luisantes. Fleurs hardies et malicieuses, fleurs vigoureuses, fleurs de santé, de bonne mine et de courage. De place en place, parmi leurs buissons envahissants, se dressent en soleils orangés les grandes fleurs de l'arnica, tandis que les lys martagons balancent leurs turbans ponctués de pourpre, et que d'autres lys, ces petits lys blancs qu'on nomme des paradisis, si délicats, si frêles, semblent destinés à mourir aux premières gouttes de rosée. Des violettes à deux fleurs, abondantes et menues, garnissent de touffes jaunes le creux des roches. Sur les replats du gazon, il y a des tapis de pensées, d'un bleu intense, de gentianes encore plus bleues, ouvrant leurs corolles en coupes allongées au-dessus de leurs feuilles coriaces, de grassettes d'un bleu presque noir, pareilles à de minuscules cornes d'abondance, de myosotis, d'un bleu clair et vif, du même bleu que le ciel. Au bord des névés qui se retirent, pointent les clochettes dentelées des soldanelles, petites fleurs en demi-deuil d'un lilas tendre,
de la couleur des chagrins presque consolés, si pressée de naître qu'elle perce la couche de neige trop lente à disparaître. Jusque dans les pierriers s'ouvrent les cérestes aux blancs pétales étalés, les courtes grappes des linaires au palais de safran, les bouquets blancs des achillées. Et il y en a d'autres encore, car toutes les herbes fleurissent, toutes les mousses, toutes les plus humbles graminées dans une gaieté folle, dans un éperdu besoin de vivre, de jeter leur pollen aux brises caressantes, de semer pour l'avenir des moissons de pétales colorés, de pistils odorants. C'est comme un sourire épanoui de plantes, autour desquelles bourdonnent d'invisibles insectes dont le bruissement se fond dans le silence, tandis que de grands papillons furtifs, des apollons aux ailes lumineuses, voltigent parmi toutes ces fleurs comme des fleurs vivantes. Sterny s'étendit longuement sur la mousse, les yeux et l'âme noyés dans la splendeur ambiante, pendant que ses deux compagnes moissonnaient des fleurs pour Madame Sauge. Tout en suivant à travers sa rêverie leurs silhouettes qui se penchaient, se redressaient, se déplaçaient avec des agilités de feu follet, il revoyait une autre figure portant des fleurs aussi, d'autres fleurs, des fleurs d'automne dont elle chargeait ses belles mains, traversant avec des gestes d'harmonie ce décor qu'elle absorbait comme l'amour absorbe les fantômes irréels de tout ce qui se passe. Elle était lente et grave et si belle, et ses yeux, qui par instants se levaient derrière ses longs cils, promettaient plus de bonheur qu'ils n'en pourraient tenir dans la vaste plaine, plus que n'en pourraient chanter les sonores avalanches de la tour aux fées. Du bonheur de quoi remplir tout le dôme du ciel. Alors, Sterny sentit son cœur se gonfler de sanglots. Ce bonheur ne lui appartiendrait jamais, pas plus que le vent qui glissait sur lui pour s'en aller ailleurs. Jamais, sans doute, il ne reverrait Madeleine, qui peut-être avait oublié son nom. Ils reprirent le chemin du retour. Depuis l'arrivée de Sterny, les deux amis, qui se rappelaient dans les moindres détails son histoire, telle que M. Vallée la leur avait racontée, l'observaient avec la sollicitude craintive que les catastrophes d'une existence orageuse inspirent volontiers au cœur très simple. Elle ne voyait plus en lui, comme d'abord, un étranger brillant égaré dans leur milieu modeste, mais un malheureux, un de ces êtres qui portent péniblement leur misère intime et qu'on voudrait soulager par une parole de sympathie ou d'espérance. Cette parole, qu'elle croyait avoir trouvée, l'occasion leur parut propice à la placer. À Saulnoir, déjà, elle avait failli tomber de leurs lèvres. La timidité la retint. Mais, vers la fin de la journée passée ensemble, toute gêne s'en allait. Pendant une halte au bord du torrent, Marthe dit « Que cette course était belle, n'est-ce pas, monsieur? Moi, je trouve la montagne trop belle. » Et j'en jouis d'autant plus qu'il me semble que la beauté du monde est une preuve de la bonté de Dieu. » Julien connaissait le piétisme des deux demoiselles, qu'il voyait parfois distribuer leurs traités religieux, mais jamais il n'aurait cru que leurs ailes de propagandiste s'étendraient jusqu'à lui. Comme il ne répondait pas tout de suite, Mademoiselle Baudoir profita de son silence pour ajouter « Une preuve de sa bonté infinie, car sa bonté s'étend sur tous les êtres qui souffrent. Elle a des consolations pour tous les maux, pour toutes les peines. » Elle s'arrêta comme au bord d'un fossé, reprit haleine et lança, la voix tremblante, « Pour tous les souvenirs !» Julien reconnaissait cette langue qui avait agacé sa première jeunesse, ce « patois de Chanaan » dont le seul souvenir lui donnait de l'humeur. Il répondit froidement « Je voudrais le croire, mademoiselle. » Aussitôt, mademoiselle Le Chêne s'écria avec une ardeur presque passionnée « Oh, c'est si facile, monsieur! Il n'y a qu'à demander un appui qui jamais ne nous est refusé. Il n'y a qu'à... » Julien vit poindre un prêche qui pourrait durer longtemps.
Il l'interrompit en disant, non sans quelque brusquerie, « Je vous en prie, mademoiselle, ne parlons pas de ces choses-là. Cela gâterait la fin de notre promenade. » Les deux amies rougirent ensemble, un peu honteuses de leur défaite, inquiètes de l'avoir froissée. Et ils continuèrent leur chemin, sans plus rien dire, le long de l'épande qui courait en cascade devant eux. Sterny en voulait à ses compagnes, les jugeant indiscrètes et maladroites, irritées d'avoir senti brûler sa blessure sous la main qui voulait la panser. Le lendemain, il fut plus indulgent. Il comprit qu'en toute simplicité de cœur, elles lui avaient offert un peu de leur dictame, pareilles à ces bonnes personnes qui sont toujours prêtes à tirer de leur poche un flacon du remède auquel elles croient. Eau d'arquebusade, alcool de menthe ou alcool camphré, pour l'offrir à tout venant contre toutes les maladies. Elles se dirent « Quel dommage qu'ils ne veuillent pas même essayer !» Mais elles ne renouvelèrent pas leur attaque repoussée et se tinrent heureuses de constater qu'ils ne leur en gardaient point de rancune. Peu de jours après, Élise allait montrait à Sterny de nouveaux hôtes en lui disant « C'est une famille de Genève, les Adelines, des amis des vallées qui nous les envoient. » Le mari, bedonnant et majestueux, avec un profil net, un nez busqué, des favoris poivre et sel, avait les allures grincheuses d'un homme pénétré de son importance, qui sort rarement de chez lui. La femme, au menton accroché, aux yeux inquiets de sentinelle, rappelait un peu Madame Vallée. La fille avait des cheveux pâles, un teint de chlorose, un air languissant. C'était pour elle que ses parents, rompant avec leurs habitudes casanières, avait quitté la vieille maison de la rue de la Croix d'Or, où, depuis tant d'années, il logeait entre deux cours. Mécontent avec ostentation, il se plaignait entre eux des gens et des choses, de la cuisine de l'hôtel, de leur chambre trop petite, de leurs voisins trop bruyants, de l'horizon trop étroit, de la chaleur et des mouches. Ils accueillirent les avances de Julien avec une méfiance que l'isolement et l'ennui rendirent plus condescendante, et s'adoucirent à mesure qu'ils subissaient de bonne grâce la longue histoire de la maladie d'Anna, celle des inquiétudes de M. Adeline sur son étude de notaire, que depuis 30 ans il n'avait jamais quitté aussi longtemps. Leurs plaintes, leurs jérémiades, leurs soupirs. Jeté dans la conversation, le nom des Vallée ne servit d'abord qu'à provoquer des récriminations nouvelles. « Ils nous avaient dit beaucoup de bien de cet endroit, monsieur, mais je crois vraiment qu'ils se sont moqués de nous. Car enfin, qu'est-ce que c'est que ce Valanche ? Dites, monsieur, un fond de cuvette, et pas bien propre encore. Regardez-moi cette place publique. N'est-ce pas une honte la façon dont elle est tenue ? Et cette paroi de montagne, monsieur, cette grande paroi noire ? Il me semble que jamais je ne me résignerai à la voir ainsi devant moi, du matin jusqu'au soir. » « C'est une impression qui passe, madame, » répondit Sterny. « Je l'ai moi-même éprouvée, et pourtant j'ai fini par m'attacher au village. Vos amis eux-mêmes l'aimaient beaucoup. « Mais ils se garderont bien d'y revenir, eux, » dit Monsieur Adeline. « Ils sont allés à l'Estral cette année. » Madame Vallée veut passer l'été dans un endroit à la mode. » Madame Adeline soupira. « Elle a grand besoin de se distraire, la pauvre femme. » « A-t-elle donc des chagrins ?» demanda Sterny. Madame Adeline poussa un nouveau soupir. « Ils ont une cruelle épine, monsieur. Une dure épreuve. Leur nièce. »« Comment, leur nièce ?» s'écria Julien. « Serait-elle malade ?»« Malade ?» « Oh, si ce n'était que cela, mais c'est bien autre chose, monsieur. Vous ne sauriez vous imaginer le chagrin qu'elle leur cause. » Elle s'arrêta. Il fallut que Julien demandât. « Mais quel chagrin ?»« Oh, des chagrins de toutes sortes, monsieur. Croirez-vous que cette jeune fille veut vivre indépendante ? Elle ne veut pas rester chez eux, qui l'ont recueillie, qui l'ont élevée, qui l'ont traitée comme leur propre enfant. » Madame Adeline baissa la voix. « Elle s'est enfuie de leur maison, monsieur, et ils ont eu beaucoup de peine à la ramener.
Heureusement qu'il y a la loi, dit Monsieur Adeline.
Elle n'est donc pas majeure ? Demanda Julien.
Les deux époux, dont la langue était déliée, se mirent à parler presque ensemble.
Elle le sera l'année prochaine, et alors...
Alors, Dieu sait ce qui se passera.
Elle est capable de réclamer à son oncle ses comptes de tutelle.
Et pourtant, si elle a quelque fortune, c'est bien à lui qu'elle le doit. Car il a défendu ses intérêts avec un dévouement.
J'en sais quelque chose, monsieur, moi qui vous parle. Je l'ai vu à l'œuvre.
Sterny ne les écoutait plus. Il songeait que Madeleine était à l'estrade et que rien ne pouvait l'empêcher de l'y rencontrer.